France Musique. Les grands entretiens, Benjamin François.
Je suis Paul Van Evel, né en 1946 à Hasselt, une petite ville en Belgique. J'ai créé l'ensemble Ouelias en 1971 pour le français 71 et je suis alors l'animateur de l'ensemble Ouelias que je dirige encore toujours.
Paul Van Evel, vous avez constaté de nombreux changements dans la perception du temps à notre époque moderne. C'est un peu comme si nous étions entrés dans un anneau de vitesse. Avec la technique, tout s'est accéléré, ce qui n'est pas sans incidence sur nos rythmes de vie, dites-vous, et pour les musiciens, sur leur perception du tempo dans la musique. En concert ou dans vos enregistrements, diriez-vous que vous avez aujourd'hui trouvé le tempo juste en prenant conscience de nos vies modernes, trépidantes, et donc en vous forçant à ralentir?
Je vais refaire tous les 120 CD qu'on a fait. Parce que tout dépend aussi, et bon, nous sommes des êtres humains, hein, c'est difficile de quitter, d'oublier, d'éloigner tous les tempos qu'on a au moment qu'on veut commencer à faire une œuvre. C'est pour ça que dans des concerts, par exemple, mais aussi dans les enregistrements, les 2 secondes avant qu'on commence, ce sont les secondes les plus importantes. Mais si vous commencez en pensant la lettre mauvaise que vous avez eue de votre banque il y a 2 heures, c'est foutu. Il faut pouvoir faire cette musique, partir cette musique dans un vacuum. Et une fois qu'on a commencé, ça vient automatiquement. Le tempo et la musique et la composition, s'il est bien fait, la composition vous prend à la main pour aller dans le même esprit jusqu'à l'accord final.
Comment faites-vous comprendre cela à vos chanteurs lors d'une répétition, par exemple? Vous n'avez pas une baguette quand vous dirigez, mais souvent un diapason ou même un crayon à papier. Enfin, vous n'avez pas un geste de chef d'orchestre moderne, entre guillemets.
Oui. Au début, j'essayerai d'expliquer tout. Et maintenant, j'essaie d'expliquer si moins que possible. C'est un développement. Et surtout, naturellement, en sachant que je travaille avec des chanteurs qui sont de très haute qualité pour la musique que nous faisons. Yeah. Alors là, je leur donne du temps pour entrer eux-mêmes. Le grand problème, c'est pas chanter les notes, ça c'est facile. Le problème, c'est pour eux, est-ce que le texte est bien placé? Et ça, c'est une autre grande chose que je trouve trop peu de mes collègues le font. Je peux le dire, hein, je suis 75 ans, je peux le dire. Ils donnent trop peu d'attention à une belle manière de placement de texte sous les notes. C'est très important. Et on peut dire, oui, mais ce sont que des détails. Non. Quand ça arrive 50 fois dans un motet, c'est plus un détail, ça devient une importance. Oui.
Ce qui a beaucoup changé aussi pour vos chanteurs, c'est qu'au début de l'histoire de l'ensemble Ouelias, vous les faisiez chanter et ils avaient tous les parties des autres chanteurs. Ils avaient la même partition que vous qui dirigez.
Oui, oui.
Aujourd'hui, j'ai l'impression que vous avez tendance à leur donner plutôt leur partie individuelle.
Oui, c'est aussi une évolution. Donc, il y a 10 ans, on a commencé, je disais, bon, faisons ce que les chanteurs ont eu à l'époque, notamment seulement leur partie et pas les autres. Bon, l'effet est clair. Pour les oreilles, c'est beaucoup mieux. Les chanteurs peuvent plus contrôler. Ils peuvent pas voir ce que l'autre fait pendant que vous chantez. Il faut l'entendre. Ça veut dire que pour une intonation juste et très claire, c'est très très bien d'avoir seulement sa pratique. Il y a un problème pratique. Ça demande beaucoup de temps parce que je dois partir d'une partition naturellement. Donc je fais d'abord la transcription. Et puis il y a quelqu'un qui fait toutes les voix dans des livres séparés. Mais c'est devenu, nous n'avons pas assez de subventions pour pouvoir payer ça. De temps en temps, je le fais encore, mais les nouveaux partitions qu'on faisait, disons que c'est 20% encore parties séparées pour les autres partitions. Mais là, j'ai dit au chanteur, pensez à votre voix et aux oreilles et n'occupez-vous pas de ce que vous voyez, parce que ce que vous voyez n'est pas important. Donc c'est quand même une philosophie qui a changé pendant les années. Yeah.
Vous nous racontez, Paul van Nevel, la séance biannuelle de recrutement de chanteurs. Que faites-vous ?
Oui, j'ai un système spécifique.
Il tremble en face de vous, vous le savez, hein ?
Oui, c'est normal. Enfin, un jeune chanteur qui vient devant quelqu'un qui a déjà occupé 50 ans avec la matière, s'il tremble pas, c'est mauvais signe, hein ? Non, mais après 5 minutes, il est devenu calme. Hein. Oui, c'est, je demande ce que la musique demande et ce que je pense que la philosophie pour faire cette musique demande. Et je ne leur demande pas de chanter un aria de Mozart avec piano et tout ça, non. C'est toujours autre chose. Question d'intonation, de justesse, de feeling pour un bon tempo et une prononciation. Et s'ils n'ont pas encore, et ça se comprend, une prononciation française, France du Nord, des textes classiques de Virgile, ça je comprends, mais il doit pouvoir l'imiter. Et quand on lit le texte sur des auditions exactes, comme il faut la prononcer, et je demande répéter, et c'est totalement à côté ce qu'il faut, ça veut dire qu'ils n'ont pas de bonnes oreilles.
Oui, au revoir. Simplement. On vous écrira.
Oui, je reste gentil, mais ouais.
Vous êtes auteur d'une monographie sur Johannes Ciconia. Vous avez plutôt découvert des compositeurs qui n'étaient pas les plus connus sur le segment de musique qui vous intéresse. Quelle est la découverte dont vous êtes le plus fier, en définitive ?
Bonnefond. Et mes chanteurs trouvent ça aussi, que la polyphonie, le requiem de Bonnefond qu'on a enregistré, c'est quand même, on ne peut pas imaginer, c'est impossible que c'est la seule œuvre qu'il a écrite. Tout le reste doit être perdu. À Clermont-Ferrand, les manuscrits pendant, après Napoléon et tout ça, il y a beaucoup détruit hein, en France, comme tu sais, parce que ce n'est pas possible. C'est une qualité très très haute, une polyphonie bien pensée, surprenante, très beau. Au point de vue d'équilibre entre dissonance et consonance. Et pour nous, c'est une œuvre de première classe. Oui.
Il y a un compositeur dont on pourrait se dire que vous auriez pu l'enregistrer un peu plus, c'est Orlando di Lasso, Roland de Lassus par exemple. Pourquoi ces compositeurs dont les musicologues nous ont dit qu'ils étaient les grands, en fait pour vous, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas si grands?
Non, parce que grand, c'est pas parce que beaucoup est connu, et à l'époque où ils ont vécu, et maintenant, c'est pas parce que tout est édité de Lassus que c'est donc un des meilleurs. Pas du tout. Il faut garder la qualité. Naturellement, Lassus a un côté génial, mais il y a un grand désavantage, c'est qu'il est très paresseux. Il a beaucoup écrit, pas pour être original, mais pour avoir une tension dans l'œuvre qu'il a écrite. Ça, c'est trop peu
présent
dans les œuvres de lui, je trouve. Je ne trouve pas le plus grand. Les œuvres qui sont fantastiques chez lui, ils sont fantastiques, vraiment. Les Lamentations de lui, grande qualité, très haute qualité. Les Lacrimae de Saint-Pietro, quelques chansons aussi. Mais si on compare des chansons de lui français, les chansons françaises, avec les chansons de souvent éditées dans le même recueil de Ballard, Le Roi et Ballard à Paris, hein, Lassus, et puis Claude Lejeune. Là, Claude Lejeune est mieux. Ouais. Donc, il faut être honnête aussi dedans. Hein, hein.
Dans votre période,
pas tout que Mozart a écrit est la plus haute qualité. Hein, je m'excuse. Ouais. Donc, c'est pour ça que même les petits, enfin, petit parce qu'on ne sait pas beaucoup d'eux, parce qu'ils n'étaient pas édités à l'époque, ou ils n'étaient pas intéressés d'être édités. Ou, prenons l'exemple de Nicolas de Wim, très très bien ce qu'il écrit, mais c'est dispersé. Ce qui existe encore de lui, c'est une vingtaine de motets et quelques chansons, mais sur des collections dispersées. Hein? Donc, bon. Pas beaucoup est resté de lui. Est-ce que ça veut dire qu'il est donc un compositeur qui est moins valable? Pas du tout. La moitié de ce que j'ai lu de lui, c'est de très haute qualité.
Thank you.
France Musique, les grands entretiens de Paul Van Nevel.
Il y a un compositeur que vous avez beaucoup fréquenté dans votre période lilloise. Sa pierre tombale est d'ailleurs à Lille. C'est Guillaume Dufay.
Oui.
Et ses motets isorythmiques sont d'une beauté transcendante.
Oui, c'est vrai. Et on devrait refaire ou ajouter à ses motets isorythmiques des autres œuvres de lui, encore dans sa période plutôt moyenâgeuse. Donc avant 445, dans les années 40, il a écrit ses derniers motets isorythmiques. Hein. Après, la Renaissance devient chez lui aussi. C'est très beau aussi. Mais des œuvres de sa première période ont une fascination, je trouve, de cohésion rythmique et isorythmique qui est unique, qui lui rend un compositeur très, 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 très grand. Oui, Dufay. Mais oui, il y a tellement beaucoup à faire et je ne vis que 30 ans encore, donc je dois choisir ce que je vais faire.
Paul Van Nevel, il y a un fait assez fascinant que ces compositeurs franco-flamands sont tous issus d'un même territoire, même si après ils sont partis ailleurs. C'est une question qu'on peut avoir. Est-ce un hasard que tous ces compositeurs sont tous nés, ont été éduqués sur le même territoire?
Non, non, j'ai décrit ça dans mon livre Atlantschap des polyphonistes, le paysage des polyphonistes.
Hein. Non traduit en français?
Oui, c'est-à-dire...
Alors
Oui, si vous trouvez un éditeur, je veux bien, parce que l'éditeur qui était en train d'éditer, petit éditeur à Bruxelles, très bien, il est mort du Covid. Très jeune, tout à coup, fini. Donc maintenant, bon, j'ai pas eu le temps de m'occuper avec ça, donc... Non, mais dans ce livre-là, j'explique les raisons. Première raison, c'est économique, naturellement. Cette région-là, pour le textile, pour les draps, une culture très, très, très importante et financièrement très intéressante. Donc, deuxièmement, Cambrai était...
Un archevêché?
Un archevêché le plus grand jusqu'à Anvers, presque. Et troisièmement, la qualité des écoles musicaux aux cathédrales de Douai, Cambrai, Utrecht, Arras. Là, à Cambrai, tout le monde est passé presque. C'était très, très, très fameux, qualité. Donc, ce sont les trois raisons pourquoi là, ils viennent de là. Le même style qu'ils ont créé et qu'ils ont, partagé avec les autres compositeurs qu'ils étaient les élèves d'eux, c'était le style d'imitation et ça vient, à mon avis, du paysage. Hein. Quand on a vécu dans un coin du village, qu'on sort pas pour 6 ans ou 7 ans, hein, on reste là et on voit tous les années de nouveau, les changements qui reviennent tous les années au point de vue du paysage, parce que l'horizon pour eux est très important. Leur horizon est jusque leur monde arrête ou l'horizon. Hein. Et dans le nord de la France, avec des petites collines, c'est jamais très 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 loin. Donc une fois qu'ils quittent cette colline, ce horizon, ils arrivent dans le vrai monde de la polyphonie en chantant dans les cathédrales.
Vous ne pensez pas qu'on est d'une certaine manière un peu amnésique, musicalement parlant, par rapport au répertoire qui vous occupe depuis 50 ans maintenant ? On est peut-être un peu trop fixé sur le 19e et le 20e siècle.
Ah oui, oui. Parce que ces périodes-là sont encore plus proches à nous maintenant comparées avec le 16e ou le 15e siècle, naturellement. Hein. Quand je vois Philippe, Hervé, on a discuté sur ce phénomène de est-ce qu'on doit expliquer ce qu'on fait musicalement. Hein. Il y a un côté des gens qui disent non, pas du tout, musique doit être parlée pour soi-même et faut pas commencer à blabla, à expliquer la musique, pas nécessaire. Il a partiellement raison, mais ça compte pas, je trouve, pour la 15e et la 16e siècle, surtout la 15e, je trouve, où l'idée de faire de la musique et d'écouter de la musique était tellement différente. Et là, simplement, mon expérience, et ça arrive que j'explique un peu un concert, et si on donne vraiment des accrochages possibles pour des gens, ça leur aide beaucoup, et ils viennent toujours après la question à dire que c'était devenu beaucoup plus clair. Donc, pourquoi pas? C'est pas nécessaire, mais pourquoi pas, hein? Donc, pour le 19e siècle, écoutez, je pense pas. Quand on sait un petit peu les circonstances de Gustav Mahler, il faut pas expliquer sa musique. Hein. Hein. Ça prend assez de temps pour le comprendre, je trouve.
Ecclesiae Militantis de Guillaume Dufay par l'ensemble Huelgas, dirigé par Paul Van Nevel. Fin de ce 4e épisode, réalisé par Lionel Quentin avec Joseph Ascal, Nicolas Mathias et Élise Leu. Je vous donne rendez-vous demain pour le 5e volet où il sera question de la discographie de l'ensemble Huelgas, des projets de son chef Paul Van Nevel et du nouveau festival de Pentecôte à Talent en Bourgogne.
À réécouter sur francemusique.fr.